Radio Okapi. Grande interview.
Vous le savez, Radio Okapi a toute cette semaine diffusé une série de reportages sur le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion en RDC. Nous clôturons cette série avec le professeur Daniel Kawata, ancien coordonnateur général de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion CONADER en sigle. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Bonjour professeur Daniel Kawata.
Bonjour, bonjour monsieur Alain.
Comment vous allez?
Je vais très bien, merci, par la grâce de Dieu.
De 2004 à 2007, vous travaillez comme coordonnateur général de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion CONADER en sigle. Cette structure a été créée par le décret numéro 03/042 du 18 décembre 2003. Parmi vos responsabilités, il y avait notamment conduire le processus national DDR pour 300 000 candidats venant de différents groupes armés et superviser les projets de réinsertion de 150 000 ex-combattants pour un portefeuille de 200 millions de dollars, fonds de la Banque mondiale. Aujourd'hui, quel bilan pouvez-vous dresser de la mission dévolue à la CONADER en termes de démobiliser, de réinsérer et de désarmer?
Merci pour la question. En fait, le programme DDR de l'époque était un programme post-conflit, un programme qui se présentait dans un contexte où les protagonistes de la guerre en ce moment s'étaient assis pour décider de la création d'une nouvelle armée. Donc, par cette création de la nouvelle armée, il fallait écarter tous ceux qui ne désiraient pas faire partie de cette armée-là. Ça, c'est d'abord le contexte. Alors, dans ce contexte-là, il y avait des objectifs bien déterminés assignés et à la CONADER et à la structure militaire d'intégration, SMI, qui travaillait en collaboration avec la CONADER. C'est-à-dire, dans le processus, on devait recevoir le groupe de militaires. Ceux qui décidaient de retourner à la vie civile étaient pris en charge par la CONADER, mais ceux qui allaient intégrer la nouvelle armée étaient pris en charge par la structure militaire d'intégration. Donc, nous avons reçu ensemble le devoir ou l'objectif d'un côté la création des 18 brigades pour former la nouvelle armée avant les élections, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, la prise en charge des 150 000 ex-combattants qui sortiraient de ce processus. Donc, pour répondre à votre question, d'un côté, sur 18 brigades qui étaient prévues, 15 ont été formées. De l'autre côté, sur 150 000 ex-combattants qui étaient prévus, 100 014 ont été démobilisés. En plus de ça, 30 219 enfants. Donc, si vous prenez 100 014 plus 30 219 enfants, vous voyez le nombre de gens qui ont été démobilisés.
Alors, selon vous, quelles ont été les forces et les faiblesses de la CONADER? Commençons par les forces.
Les forces de la CONADER, c'était justement le fait de travailler dans un contexte contraignant dans le temps, parce qu'on a travaillé avec la commission électorale avant qu'elle devienne sénile aujourd'hui. Donc, on devait faire de sorte que, avant les élections, les brigades soient formées et les gens soient retournés chez eux. Le travail dans ce contexte de contrainte a quand même réussi. La force que nous avons démobilisée plus de 85% des gens qui étaient prévus. Et puis, du point de vue financier, vous savez que quand vous êtes financé par la Banque mondiale et que vous consommez la totalité du financement, vous avez bien géré. Donc, du point de vue financement, nous avons consommé l'entièreté de 200 millions de dollars qui étaient prévus. À la fin, la Banque mondiale a tiré une conclusion sur les 200 millions qui étaient prévus pour le programme. 94% des dépenses ont été reconnus comme corrects et 6% des dépenses n'ont pas été reconnus comme corrects et la Banque mondiale a obligé le gouvernement à rembourser ça. Comme c'était des dépenses non éligibles, donc des dépenses qui étaient correctes, mais du point de vue de la banque, ces dépenses n'étaient pas éligibles parce que nous avons transporté des militaires. Donc la Banque mondiale ne peut pas sponsoriser les transports de militaires. Voilà pourquoi sur les 200 millions qui ont été assignés à la Conader, 94% ou 94% acceptés comme des dépenses régulières, 6% récusés mais reconnus par l'État et remboursés par l'État. Donc on peut dire que 100% dans la gestion du côté financier était acceptable. Parce qu'en réalité, nous nous sommes fait aider par KPMG. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons géré ça. Nous avons co-géré avec une structure de sous-contrat.
Alors ça, ce sont les forces et les faiblesses.
Bien, les faiblesses de la Conader sont inscrites dans le cadre de la conception même du programme. D'abord, le programme était un programme d'urgence. L'aspect de désarmement, démobilisation était l'aspect du programme d'urgence. Mais la réinsertion ne répond pas aux normes de programme d'urgence. Intégrer un programme d'urgence avec un programme de développement, ça n'a pas marché. Et ça ne marchera jamais. L'intégration d'une relance économique dans un programme d'urgence est déjà un avortement de ce programme-là. Donc il ne peut pas marcher parce que le programme d'urgence, c'est un programme très limité dans le temps. Tandis que le programme de développement demande du temps et demande l'intégration de tout le monde. Ça, c'est la première partie. La deuxième chose qui n'a pas marché dans la conception, c'est le fait qu'on ait privilégié l'élément ex-combattant par rapport à la communauté. Vous voyez, donc le monsieur qui a tué ma mère hier, qui a violé ma sœur avant-hier et qui a tué mon voisin, il a déposé les armes, il retourne dans la communauté avec un paquet de choses qu'il doit commencer à vendre.
Comme un héros. Patrick.
Voilà, donc il retourne dans la communauté, il fait son champ à côté et moi je dois aller acheter son haricot. Donc quand je le regarde, je ne vois pas en lui un ex-combattant qui rentre, je vois en lui un malfaiteur.
Une forme d'injustice.
Voilà, donc la communauté qui accueille ces ex-combattants n'a pas été préparée pour l'accueillir. Donc pour moi, je pense qu'une des grandes failles, c'est qu'on n'a pas intégré l'aspect de la justice sociale, l'aspect de la justice transitionnelle. Il faut nécessairement que l'on intègre. Pourquoi ? Parce que je pense que quand on a fini la guerre, la société doit atteindre une stabilité. Et pour atteindre cette stabilité, pour moi, il faut qu'il y ait guérison. Qu'on traite tout ce qui a été atrocité, choc.
De tous côtés.
De tous côtés. Donc, on doit traiter cela comment ? Par une procédure de réparation. C'est comme en Afrique du Sud, vous voyez l'apartheid. Les uns ont reconnu leurs fautes, les autres ont accepté les fautes de ceux qui ont reconnu et dans cette ambiance-là, on s'est pardonné mutuellement.
Avec la commission Vérité et Réconciliation.
Exact, exact. Donc, il faut intégrer une entité, la procédure qu'on appelle la justice sociale ou transitionnelle. Donc, qui doit faire de sorte que ce monsieur qui rentre ne rentre pas en vainqueur. Mais rentre comme quelqu'un qui reconnaît ses fautes et qui est comme dans une position de mea culpa vis-à-vis de la population.
Et qui vient presque réparer.
Et justement, qui doit réparer, qui doit s'engager de ne plus recommencer ces choses-là. C'est dans ce contexte-là qu'on devait l'accepter. Non seulement ça, mais le programme lui-même de redressement social ne devait pas prendre en compte uniquement les démobilisés. Ça devait être créé en prenant en compte l'ensemble de la population, les démobilisés y compris. Ces choses-là ont manqué et on fait de sorte que même si les démobilisés ont été accompagnés, parce qu'ils ont été accompagnés, réinsérés, on en voit quelques-uns, même dans notre parlement aujourd'hui, il y a un ex-combattant qui est là. Il y a quelques preuves là, mais c'est des preuves qu'on peut compter.
Pas assez suffisantes.
Non, pas assez suffisantes.
Alors est-ce qu'on peut parler d'un échec parce que visiblement, à vous entendre, les faiblesses ont été plus fortes que les réussites?
Bon, c'est parce que c'est un programme de DDR. Vous voyez ? Désarmement, c'est un succès. Démobilisation, un succès. Mais réinsertion, c'est là où il y a des problèmes. Tout n'a pas été bien calculé. Vous voyez, les gens qui ont préparé le projet Je vous donne quelques réalités de ce projet-là auquel nous nous sommes butés. Les gens qui avaient préparé ce projet-là n'avaient pas prévu le fonds, par exemple, de voyage des ex-combattants. Comment quelqu'un quitterait Bukavu pour rentrer à Mwanda, par exemple? On lui donne $50. C'est $50 qui était prévu. C'est insignifiant. Au même moment, nous avons essayé de revoir le programme. Quand nous revoyons le programme, c'est les Nations Unies qui disent « Non, vous ne pouvez pas transporter. C'est nous-mêmes qui allons transporter. » Je suis allé même à Rome pour signer avec le programme alimentaire mondial qui devait mettre des avions. En plus, leurs avions ne devaient pas arriver dans tous les coins. Voilà pourquoi il fallait solliciter d'autres avions en interne et tous ces déplacements-là n'étaient pas prévus dans le budget. Il fallait revoir le budget à la baisse pour avoir ces choses. Il y a plein de choses qui n'étaient pas bien préparées. C'est pourquoi la réinsertion, pour moi, ça doit avoir réussi peut-être à 40 ou 50%.
Vous l'avez dit, votre rôle était aussi d'assurer la gestion financière des $200 millions et des ressources humaines, plus ou moins 500 agents et plus de 30 bureaux sur tout le territoire national. Certains de vos détracteurs en son temps ont émis des critiques selon lesquelles cet argent a été dilapidé et n'a servi qu'aux frais de fonctionnement et non aux véritables démobilisés. Qu'est-ce que vous leur dites?
Servi qu'aux frais de fonctionnement, ceci n'est pas vrai parce que quand on prévoit un projet de ce genre-là, le budget administratif est déjà alloué. Mais nous avons fait beaucoup d'efforts pour éviter que l'argent de démobiliser puisse être utilisé par des frais comme administratifs. Je vais vous donner deux exemples pour renchérir ce que je suis en train de dire. Le premier exemple, je prends à Brazzaville, il y avait les ex-FAS. À cette époque-là, on les avait refoulés du Congo-Brazza. Ils passaient nuit au bord du fleuve. Ils étaient nombreux. Nous étions en train de faire le programme de désarmement. On me demande d'aller les chercher là-bas pour les réintégrer ici. Alors, je prends langue avec les autorités d'ici, de Brazzaville. Bref, nous les avons tous retournés au Congo. Ça nous a coûté 3 bateaux de l'ONATRA à l'époque. Nous avons dépensé $17,500 pour le bateau et $2,500 à peu près pour le séjour déjà. Environ 20 000. Mais le monsieur de PNUD va venir me reprocher, il me dit, tu vas mourir pauvre parce que à cette allure ici, si tu prends soin de l'argent du programme, tu mourras pauvre. J'ai découvert que la même opération a fait l'objet d'une demande de PNUD à la Banque mondiale et les gens de la Banque mondiale m'ont dit que le PNUD avait demandé $430,000 pour faire la même opération que nous avons faite en moins de $20,000. Je ne m'appelle plus très bien parce que je sais que 17,500 ont servi au bateau et puis il y avait quelques frais là. Pour $430,000 que le PNUD pouvait dépenser pour ça. Les gens ont effectivement un regard sur les dépenses administratives. Si vous ne faites pas attention, ça peut aller de ce côté-là. Je prends un deuxième exemple pour terminer. Il y a une compagnie qui a soumissionné pour $800,000 afin d'installer les systèmes de communication dans nos 22 bureaux. À l'époque, la Banque mondiale Kinshasa donne le OK. Nous autorisons la compagnie à commencer déjà à installer les câbles dans nos bureaux. La Banque mondiale Washington récuse ce marché-là. Donc nous devons arrêter. Nous arrêtons le marché. Je dis aux soumissionnaires, écoutez, on doit arrêter ce marché ici parce que la Banque mondiale Washington a refusé. Dites-moi simplement les câbles que vous avez installés ici. Combien on doit vous payer pour que on règle l'affaire? Ils reviennent sur 800 000, ils demandent 400 000. $400,000 pour les quelques câbles. Je demande l'expertise interne, on me dit que ça peut coûter $18,000. La discussion commence et puis j'ai fait intervenir une maison qui fait l'expertise pour ça, comme, disons, une experte externe. Ils arrivent à $30,000. Vous savez que pour ça, un homme a été tué à bout portant. L'agent qui a accompagné la compagnie qui devait faire la contre-expertise, c'était un jour férié. Il devait faire la contre-expertise, il devait entrer dans tous nos bureaux pour vérifier. Ce gars s'est fait tuer à bout portant parce que nous avons refusé de payer tout ce montant-là. Et en définitive, on n'a payé que $30,000. Donc, il y a eu possibilité de verser dans les dépenses du personnel, mais nous avons veillé à cela. D'ailleurs, ma conscience est toujours lucide de ce côté-là. Nous avons fermé le robinet à la plupart de ces éventualités. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous n'avons pas été appréciés par d'autres personnes. J'ai perdu un enfant, mon fils, de 4 ans, dans cette histoire-là. Toujours des tractations, il faut dépenser ici, il ne faut pas dépenser. Cette sévérité et cette manière d'être rigide dans les dépenses, ça nous a coûté cher. Je suis conscient quand les gens disent ça, mais dans mon conscience, je sais que j'ai lutté contre cette tendance-là. Elle était là, effectivement, mais dans la mesure du possible, on a lutté contre ça.
Radio Okapi. Grande interview.
Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, je voudrais juste signaler que Grande Interview reçoit le professeur Daniel Kawata, ancien coordonnateur de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion, qu'on adhère en sigle. Vous le savez, professeur, le président de la République, Félix Tshisekedi, a signé lundi 5 juillet l'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement d'un programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS. En sigle, il est rattaché à la présidence de la République. En termes de perspective, quels pourraient être vos conseils ou vos propositions pour la réussite de cette nouvelle structure?
Ah oui, disons que d'abord, ce programme bénéficie de la stratégie de mise en état de siège des endroits où il y avait ces troubles.
En Ituri et au Nord Kivu
voilà,
notamment.
Ça, c'est déjà un avantage. Parce que on ne parle pas d'une démobilisation, désarmement, réinsertion à la manière dont on avait fait la fois passée. Et ici, il n'y a pas de réinsertion. Je vois, c'est le relèvement communautaire. Mon conseil, c'est que l'intégration sociale ou le relèvement social sans justice sociale est un nouveau départ dans un nouveau rythme de conflit. Donc il faut nécessairement qu'on voie l'aspect de la justice sociale. Et ça c'est d'un. Et puis de deux, l'intégration dans l'armée de ceux qui sont justiciables sans vraiment tenir compte d'une mesure corrective à leur endroit, c'est vraiment une porte ouverte à la fragilité de nos forces armées. On doit tenir compte de ça. Et puis l'intégration de la relance économique dans un processus d'urgence. Ce programme ne doit pas comporter comme par exemple Starec, qui était un programme d'urgence avec un composant de stabilité. Non. On doit ségréguer, on doit séparer l'aspect urgence de l'aspect développement qui doit demander un peu plus de temps et les mécanismes de développement. Sinon, alors, on ne va pas aider ce programme à réussir. Et puis, l'intégration de trop de services dans le processus. Je suis content que ça soit relié à la présidence qui va chapeauter ça avec une structure plus légère. La CONADER avait 13 ministères comme comité de pilotage. Donc, cette décision, pour qu'elle se prenne, tout le monde doit être là, doit participer. C'est une grosse machine. Je crois que la structure, elle peut être assouplie de cette manière-là. C'est un avantage. Et je dirais que je n'ai pas lu ce programme-là. C'est avec beaucoup de réserves que je dis ceci. La non-intégration des victimes de guerre dans le programme de relèvement est déjà un échec au départ. Donc ils doivent être intégrés parce que souvent on regarde la réussite du côté des gens qu'on injecte dans la société. Je prends un exemple, la CONADER, 100 000 personnes démobilisées, lapidairement on peut dire, si on avait mis sur la tête de chacun 1 000 dollars, donc nous avons 100 millions de dollars qu'on injecte dans une économie, ce qui n'est pas vrai. Parce que de ces 100 millions-là, 2 sont en Banzangungu, 1 est à Luputa, et 3 autres sont en Grandajika. Ça n'a pas d'effet sur l'économie. Voilà pourquoi un programme en aval doit être monté dans lequel sont pris en compte les autochtones, c'est-à-dire les gens qui ont été hier victimes de cette guerre-là, avec les démobilisés ensemble, après avoir passé l'étape de justice sociale dont je parlais tout à l'heure. C'est de cette manière-là qu'on peut réussir la vraie intégration comme telle.
Vous avez signifié que c'était un avantage que cette structure soit rattachée à la présidence de la République. Il y a eu beaucoup de miliciens qui se sont rendus, mais qui ont été obligés de retourner dans la brousse, tout simplement faute de prise en charge. Et on espère vraiment que cette fois-ci, avec la présidence de la République, ça pourrait être accéléré.
Le problème, c'est que si on regarde cette prise en charge-là uniquement du côté des démobilisés, c'est pénétrant de ce que nous avons fait. C'est pourquoi je dis la démobilisation et le désarmement doivent être une unité tout à fait à part. Tandis que la prise en charge réelle du relancement ou relèvement ou développement doit faire l'objet d'un programme qui inclut tout le monde à la fois. Parce que quand on regarde le fait que c'est les démobilisés qui retournent avec un peu d'argent pour se réinsérer dans la société, laquelle a été détruite par lui-même avant de déposer les armes, ça devient antinomique. Donc ça nécessite nécessairement une prise en charge communautaire, un programme communautaire dans lequel lui vient s'intégrer. Pas un programme qui le voit lui entrant dans la société pour apporter un plus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Cette vision-là devait être un peu retouchée, à mon avis.
Vous avez évoqué l'aspect de la justice qui doit être prise en compte. On se souvient qu'il y a plusieurs chefs miliciens qui sont en train de se rendre en ces moments. Est-ce que le fait de les juger, de les condamner, ne pourrait pas en décourager d'autres qui voudraient emboîter le pas?
Et le fait de les laisser comme ça va aussi encourager les autres qui vont emboîter le pas. Donc, quelque part, comme on l'a fait ailleurs, il y a des gens qui ont opté pour l'armée, qui ont été jugés, qui ont été condamnés et qui ont passé un peu de temps dans une sorte de rétention avant de rentrer en fonction. À cause de son casier judiciaire, on prend du temps à le former. C'est une espèce de pénitence, une espèce de rétention pénitentiaire, mais qui ne dit pas son mot. Parce que si on ne juge pas, on ne condamne pas. Certains qui étaient graves, on devait les condamner. Pourquoi on a eu les gens à la Cour pénale internationale? C'était des gens qui devaient s'intégrer dans l'armée, mais dont les flagrances étaient graves. Moi, j'étais à l'intérieur où on a appris. C'est là où je suis en train de dire que c'est très important, cette justice-là. Il y a, dans certains milieux, ça j'ai appris ça, il semble que ça s'est passé à Aveba. J'étais moi-même là. Un enfant
en Ituri,
oui, avant d'intégrer l'armée, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit violer une personne, un membre de famille. Il doit tuer ce membre de famille violé. Il doit extraire un organe de ce membre de famille qu'il a tué et qu'il a violé. Il doit apporter cet organe auprès des autres. Ils doivent préparer et consommer ça ensemble. Donc on a fait des jeunes enfants des anthropophages. Cet anthropophage qui rentre dans la société aujourd'hui, et on les laisse comme ça, tranquilles, on ne l'interpelle pas, on n'engage pas une certaine discipline et des sanctions contre cet acte-là. Il va reprendre ça un beau jour, ou il va faire ça avec d'autres familles. Si il a fait ça dans sa propre famille, il n'a plus de cœur. Il peut faire à n'importe quelle famille parce qu'il a commencé dans sa propre famille. Il y a des exactions qui ont été faites comme ça. Laisser ces gens-là sans les juger, sans sanctionner ces actes-là, pour moi, c'est vraiment ouvrir une certaine fragilité à nos forces armées parce que ces gens-là vont faire partie de l'armée.
Baye kolisi ngai te kokoma, malakisi ngai kaka se kobuma. Bomwano ya masano natondi te, makabolinga na baninga susi te. Soku bayibinga bomwana ye, malgré ça batiki te koswa na ukuli. Pire encore bitumba tokendike, asalela biso lokola bouklie. Mais yo yo he. Moboti ninyango oya kundimae, oya ye mwana asekana na moto. La guerre commence oyo biso tondima, kwiju kwiju ya lioto te makila bato e. Osoku, bayibinga po mwana e, malgré ça, batiki te koswana. Biro ko, bitumba doke nike, asale la biso loko la bukiye, ne, yo yo. Nakende kelasi mpona nini ngai te, bokolo na makasi esimbi nango ngai te. Na bloka le fou malade longo na ba camarade, le corbeau et le renard atana moi retard. Na beta Nintendo, na beta moi judo, na teta mwanika na sekana na maika na buka madame sentiment ba benjamin na sekana na kibu una modela malibu yo 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 na kende ke
Grande interview reçoit le professeur Daniel Kawata, ancien coordonnateur de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion, qu'on adhère en sigle. Nous allons terminer cette émission par l'aspect prise en charge des victimes que vous avez beaucoup évoqué, sur lesquelles vous avez beaucoup insisté. Mais on a remarqué dans notre pays qu'en ce qui concerne la prise en charge psychosociale, l'accompagnement psychosocial des victimes a souvent été négligé, au point que pour la plupart des programmes qui ont existé dans ce sens-là, ça n'a pas vraiment très bien marché. Quel serait votre conseil?
Bon, ça n'a pas marché parce que la population n'est pas d'abord prise en compte. Ceux qui sont pris en compte, c'est les démobilisés. Quand on parle d'autant de démobilisés, on voit l'argent qu'on met sur la tête des démobilisés. Pour que les victimes soient prises en compte, on doit savoir que représente la population qui a été victime de ces actions-là. Quels sont les grands problèmes? Il faut faire un programme général, global, de l'environnement. Si c'est un programme, je prends par exemple, si c'est un programme agricole, il faut faire ce programme avec la population, y compris ceux qui rentrent comme démobilisés. Mais pas comme on avait pensé la fois passée, doter des démobilisés d'une capacité de retourner à travailler la terre et de commencer à vendre à leurs victimes qui sont restées sans moyens à cause de cette guerre-là. C'est pourquoi je pense que le programme doit vraiment avoir deux parties distinctes. La partie de désarmement, démobilisation doit être distincte de la partie du relèvement qui doit prendre en compte les populations et non pas les individus démobilisés dans la population. Il doit prendre les populations entières dans lesquelles ces démobilisés font partie. C'est en ce moment-là. Par exemple, vous prenez un programme agricole pour Bounia, vous allez prendre pour la population autochtone qui est déjà en train de travailler dans ce secteur-là, renforcer leur production. Et parmi ces producteurs, on peut inclure les démobilisés. Plutôt que de penser simplement aux démobilisés qui vont là-bas avec un projet qui va renforcer la production de ce côté-là par les démobilisés. Et c'est là où nous nous sommes trompés. En prenant un budget lié à un groupe de gens dont le nombre est inférieur à la population tout entière. L'on devrait franchement penser à un programme communautaire dans lequel les démobilisés sont impliqués, mais pas un programme avec les démobilisés pour renforcer l'économie au sein de la communauté. Ça ne devait pas être de cette manière.
En guise de conclusion, quel message vous pouvez adresser à tous ces millions de Congolais qui vous suivent sur toute l'étendue de la République et à travers le monde? Parce que vous êtes non seulement un leader ecclésiastique, vous êtes un érudit, un scientifique. Quel message vous pouvez adresser à toutes ces personnes qui vous suivent?
Pour moi, c'est un message qui devait nous aider à encourager le processus. Il ne faut pas qu'on regarde ce nouveau programme avec les filtres du programme passé. La population tout entière doit participer, doit encourager le processus de désarmement, de mobilisation. Mais j'encourage les créateurs du programme de considérer l'aspect de relèvement, comme j'ai appris, comme étant un programme qui devait être différent du désarmement, qui devait être vraiment conçu, pas lié directement au désarmement, mais qui devait prendre en charge le désarmement, et plutôt ceux qui ont été désarmés, mais la population tout entière, et ces fractions de population. Et puis, de travailler avec Abnégation, c'est un programme qui demande beaucoup de courage, parce que, par exemple, à notre époque, chaque fois que vous parlez de la démobilisation, vous parlez de la réduction du nombre de gens dans l'armée et de la réduction du budget de l'armée. Donc à notre époque, c'était comme ça. Dès que je déclare que 100 000 sont démobilisés, immédiatement, on doit couper le budget conséquent du côté de l'armée. Ça, c'est une évidence que les gestionnaires de ce projet-là devaient tenir compte d'un sens d'abnégation. C'est pas pour faire le plaidoyer de moi-même. Je ne suis pas sorti, bien que ma conscience était tranquille, mais j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport aux gens qui voulaient mal gérer et qui voulaient nous conduire à gauche et à droite. Je pense que les nouveaux gérants doivent être vraiment conséquents et déterminés à respecter les règles de jeu. Donc, je leur souhaite un travail qui doit les amener à créer la paix et la stabilité dans cette contrée. Vous savez que même MONUC est devenu MONUSCO avec le souci de stabilité, mais que nous n'avons pas encore. Nous avons ici ce programme avec la notion de stabilité. Si nous ne tenons pas compte des éléments qui doivent nous amener à la stabilité, ça sera encore un échec. Et ces éléments-là, c'est la justice. Et comme je sais que le président prône la justice, là je suis favorable pour croire qu'il va imposer ça aussi au sein du processus de désarmement et de relèvement de la communauté.
Professeur Daniel Kawata, je rappelle que vous êtes ancien coordonnateur de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion CONADER. Merci de nous avoir reçus dans votre bureau.
Merci.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix.